Bienvenue dans ce nouveau Madame Talk avec la rappeuse Shani. Originaire de Wissous, dans l'Essonne, Shani écrit ses premiers textes dès 2012. Après un master de marketing, elle décide de prendre une année sabbatique en 2018 pour explorer ses différentes passions. Parmi elles, la danse hip-hop, notamment le new style, le chant, le foot, le dessin et le rap. La même année, l'artiste publie sur les réseaux plusieurs freestyles aux paroles ouvertement féministes et se constitue rapidement une communauté. À l'été 2019, pendant la Coupe du Monde de football, elle sort Sélection Féminine, un titre afro-trap qui célèbre les femmes dans le foot et qui la révèle au grand public. Elle nous parle aujourd'hui de son admiration pour la nouvelle génération qui se mobilise contre le sexisme, du cyberharcèlement que subissent régulièrement les rappeuses et de ses nombreux projets malgré la crise du Covid. Salut Shani.
Salut.
Alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, peut-être tu peux te présenter.
Moi c'est Shani, je suis rappeuse. Je suis vraiment à fond dans le rap depuis 2 ans et demi environ. En fait, j'ai pris une année sabbatique après mes études pour pouvoir vraiment prendre du temps pour le rap. Et voilà, j'ai eu la chance de vraiment pouvoir y consacrer du temps, de faire des bonnes rencontres, de développer mes réseaux, etc. Au point que j'ai pu même continuer après mon année sabbatique, même si là, je travaille à côté en même temps. J'ai pu continuer cette activité. Et voilà, du coup, j'arrive à régulièrement poster du contenu, parfois des clips, à faire des concerts, des interviews, plein d'activités autour du rap, des ateliers rap, etc. Donc voilà, maintenant je suis officiellement, on va dire, rappeuse.
Et quand Madame Rap t'a découverte en 2018, tu te faisais appeler Shani à l'époque, puis c'est devenu juste Shani, et aujourd'hui c'est à nouveau Shani, si j'ai bien suivi.
Ouais, c'est exactement ça. C'est drôle. En fait, donc à l'époque, en 2018, la première fois qu'on s'est rencontrés, je sais pas, je commençais à peine mon année sabbatique et en fait, j'étais même pas sûre que j'allais vraiment me concentrer sur le rap. À la base, je faisais aussi de la danse, du chant, du dessin. Enfin, en fait, l'idée, c'était juste d'explorer mes passions. Et c'est plus tard, enfin, après l'autre interview, quand j'ai senti que vraiment, il y avait un truc à jouer sur le rap, je me suis dit, ah non, vas-y, il me faut un blaze et tout. J'ai pas envie de garder mon vrai prénom. Et du coup, tu vois, après, moi, j'avais pas de, je sais pas, de surnom que je trouvais bien, tu vois. Ouais. Donc, en fait, j'ai fait une sorte de sondage auprès de mes amis sur Facebook pour trouver un blaze. Et comme personne ne trouvait rien, il y a eu un petit jeu de mots, genre, non, mais tu peux garder Shani, en fait. Ouais, garde juste Shani. Ah, ben voilà, je vais m'appeler juste Shani. Et du coup, j'étais très bien avec ce blaze pendant un moment. En plus, je trouve que finalement, il reflétait assez bien... le côté authentique qui transparaît dans mes textes, dans mon rap, le côté humble aussi, simplicité, tu vois. Donc, moi, j'étais super à l'aise avec ce blaze. Et en fait, le problème, c'est que force a été de constater que les médias et puis même les personnes qui reprenaient ce blaze pour le citer avaient vraiment du mal à le prononcer. Donc, souvent, Juste Shani a été transformé en Just Shiny. Just Shani ou juste Shiny. Enfin, en fait, il y avait une tendance à l'américaniser systématiquement. Et voilà, et du coup, en fait, je me suis dit, bon, c'est galère. Enfin, en fait, j'ai hésité entre me dire, vas-y, je le garde. De toute façon, c'est moi qui vais imposer le truc. Si j'arrive à imposer ma musique, les gens, ils seront forcés de prononcer juste Shani. Mais en fait, je sais pas, vraiment, ça m'enlevait bêtement des relais ou de la visibilité parce que. Par exemple, dans un article, les gens, ils allaient écrire « Just Shiny ». Et du coup, voilà, niveau référencement et tout, ça m'enlevait des points, quoi. Donc, voilà pourquoi finalement, j'ai choisi de garder seulement Shani.
Et quand je t'avais interviewé aussi en 2018, tu me disais, donc, comme tu viens de le répéter là, que tu étais venue au rap par la danse, notamment. Est-ce qu'il y a un déclic particulier ou est-ce qu'il y a un événement précis qui a déclenché cette envie de rapper pendant que tu dansais?
Non, pas vraiment. En fait, finalement, c'était pas vraiment pendant la danse. C'est plutôt que j'ai toujours été attirée et passionnée par le mouvement hip-hop en général. En fait, c'est plutôt ça. Dès mes 7-8 ans, j'aimais la danse. Mais quand je dis la danse, c'est le hip-hop, en fait, seulement. J'aimais le dessin et notamment le graffiti. Mm-hmm. Donc, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire dans la rue ou sur les murs et tout. Mais je faisais beaucoup de graphes sur dessin ou dans mes cahiers d'école et tout. Et puis, j'écoutais déjà beaucoup de rap. Donc, en fait, c'est plutôt que j'ai baigné dans un environnement hip-hop qui, au début, m'a plutôt attirée vers la danse. Mais après, c'est vrai que depuis toute petite, j'écrivais déjà, j'écrivais pas du rap, j'écrivais plutôt des chansons de R&B. dès mes 7, 8, 10, 11 ans. Puis après, finalement, je sais pas, à force d'écouter du rap français, naturellement, toutes ces passions-là m'ont orienté, mais vraiment naturellement, à écrire mes premiers textes de rap en français. Mais ça a été naturel, il n'y a pas eu d'événement déclencheur.
C'est quoi la place que la danse occupe aujourd'hui dans ta vie?
Trop petite, malheureusement. La danse, en fait, vraiment aujourd'hui, c'est quelque chose qui me manque énormément. J'ai pas dansé, enfin, j'ai pas dansé, j'ai pas, je veux dire, pris de cours de danse ou fait des événements de danse depuis environ 2 ans, bah, depuis mon année sabbatique, en fait. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai plus trop le temps. Je travaille à plein temps dans une start-up, ça me prend beaucoup de temps. Je fais la musique à côté, je fais toujours du foot aussi. Et en fait, ça fait que mon emploi du temps, il est rapidement rempli, quoi. Et en fait, là, j'aimerais vraiment pouvoir, je ne sais pas si cette année, mais maximum l'année prochaine, retrouver du temps, retrouver un projet, une organisation pour pouvoir faire de la danse. Ça me manque beaucoup.
Tu viens de le dire, tu fais du foot aussi, tu as parlé du dessin, donc de la danse, du rap. C'est quoi les points communs ou le point commun pour toi entre tout ça? Est-ce que c'est un mode d'expression particulier ou c'est juste des activités extrascolaires, j'ai envie de dire?
C'est une bonne question. En fait, j'ai l'impression que finalement, le point commun, il n'y a pas trop. Enfin, il n'y a pas une raison commune qui m'a poussée à pratiquer ces activités. C'était vraiment juste très spontané. Je sais pas, quand j'étais petite, on m'a mis un ballon devant moi et j'ai commencé à jouer. Puis d'ailleurs, ça a été pareil avec le basket, avec plein de sports. En fait, j'ai ce côté juste sportif et artistique. Depuis petite, peut-être que la raison, ou plutôt enfin, la cause heureuse qui m'a poussée à faire ça, c'est que mes parents, ils ont toujours été super, super encourageants, super ouverts à toutes les activités que je voulais faire. Ils m'ont jamais dit non, ceci, non à cela. Par contre, je pense que ce qui est intéressant à relever, finalement, est un point commun, mais a posteriori, en fait, c'est pas quelque chose qui m'a poussée à le faire, mais c'est forcé de constater. Qu'un point commun entre toutes ces activités, c'est que c'est des activités réputées masculines, souvent. Donc le rap, c'est souvent fait par des garçons et le rap populaire est plutôt porté par les garçons. Le foot, n'en parlons pas. La danse hip-hop, c'est un peu plus mixte, mais en vrai de vrai, enfin, je sais pas moi, tous les cours ou tous les battles où j'ai assisté, même quand on voit les grands championnats de danse hip-hop et tout, bah, c'est beaucoup de garçons. Quand j'ai été petite, ça m'est arrivé d'être dans un cours où il n'y avait que des garçons, etc. Donc voilà, c'est drôle. Je me dis, tiens, au final, en fait, finalement, la culture hip-hop et le sport, ça reste des domaines très masculins, quoi.
En juin 2019, justement, tu as sorti un morceau pendant la Coupe du Monde de foot qui s'appelle Sélection Féminine, qui t'a un peu fait connaître du grand public.
Ouais, exact.
Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette reconnaissance?
Bah, déjà de la confiance en moi, mine de rien. Je suis quelqu'un de base qui suis plutôt confiante, plutôt sereine, sans prise de tête. Mais en fait, je sais pas si les gens s'en doutent, mais ça peut arriver vraiment facilement de douter, de plus être sûr. Est-ce que j'ai choisi le bon truc? Est-ce que je fais bien? Est-ce que ça intéresse les gens? Je pense que Sélection Féminine et le relais dont ça a bénéficié, c'est arrivé à un moment où j'avais besoin un peu d'être rassurée, de me dire oui, c'est bon, t'es sur la bonne voie. Donc voilà, en plus, c'était dans un registre de toute façon qui me parlait. Ça parlait de sport, je rappais dedans, je kickais, mine de rien, c'est pas que seulement un refrain entraînant, il y a des parties où je kick et tout. Donc je me suis dit, ah ben c'est bon, en fait, ça y est, c'est validé, quoi, tu vois, entre guillemets. C'est validé, je me suis sentie un peu validée et ça m'a encouragée, ça m'a confirmée, en fait, dans cette voie que je voulais suivre.
Il y a un autre titre aussi qui a été pas mal relayé, ou en tout cas qui t'a un peu, j'ai l'impression, fait connaître, notamment du milieu féministe, qui s'appelle Bonne
Ouais,
Fête. Et
ouais.
je te propose qu'on l'écoute tout de suite et on en parle juste après.
Avec plaisir, yes.
Bonne fête, ou alors souhaitez-le aussi aux femmes qui ont mordu le sol ou qui ont morflé. Celles sous morphine qui verront pas morfler. Celles qui ont creusé le cœur, c'est pas la bonne fée. Elle a porté jupe, on l'a boxée. On l'a embauchée juste pour ses bonnes fesses. Dans le bus, on l'a frottée. Non, me souhaitez pas bonne fête. me souhaitais pas bonne fête. J'ai vu le nombre de MeToo, j'ai lu de sombres éditos, croisé des bandes de mythos. Toi à 16 ans, privé de Wico, elle a 6 ans, privé de clito. Synopsis, elle aurait de nuit, si si jolie. Le monde est miso, la musique aussi, silo, syllogisme. Ne me souhaitez pas bonne fête, ne me souhaitez pas non. Ne me souhaitez pas bonne fête, pas bonne fête, pas bonne fête. Ne me souhaitez pas bonne fête, ne me souhaitez pas non. Ne me souhaitez pas bonne fête, pas bonne fête, pas bonne fête. Pas bonne fête, pas bonne fête. Pas bonne fête.
Rends l'argent mais rends d'abord les 20%. Ils me traitent de pute parce que je l'ai repoussé. Les mentalités faut qu'on se batte pour ça. Une main par-ci, un cri perçant. Les publicités ne choquent plus personne. Tant que pour convaincre on utilise une paire de seins. Le bonheur des femmes et le liquide vaisselle sont synonymes. J'ai cramé depuis mes premiers ratus. Le masculin l'emporte sur mes ratures. Dieu a dit que tu nous tenteras tous. Tu auras l'interdiction de nous montrer tes rotules. Oh, tu sais, chez nous, elles sont matées à l'acide. Le lanchage est massif quand la danse est lascive. 8 ans et marié, tu connais la suite. Vito, Vito, Lee.
Ne me souhaitez pas bonne fête. Ne me souhaitez pas non. Ne me souhaitez pas bonne fête. Pas bonne fête, pas bonne fête. Ne me souhaitez pas bonne fête. Ne me souhaitez pas non. Ne me souhaitez pas bonne fête, pas bonne fête, pas bonne fête. Ne me souhaitez pas bonne fête. Ne me souhaitez pas non. Ne me souhaitez pas bonne fête, pas bonne fête, pas bonne fête. Ne me souhaitez pas bonne fête. Ne me souhaitez pas non. Ne me souhaitez pas bonne fête, pas bonne fête, pas bonne fête.
À la base, ce morceau, si j'ai bien suivi, c'était un freestyle que tu as d'abord sorti et que tu as un peu remixé, enfin revisité un an plus tard, c'est bien ça ?
Ouais, exactement. Exactement, parce que la première version, elle était vraiment fait maison. Je l'avais écrite 3 jours avant, de façon très spontanée. Le clip, pareil, fait maison. Et l'année suivante, en fait, j'étais avec un producteur et on s'est dit, ah bah, maintenant qu'on a les moyens, c'est l'occasion d'en faire quelque chose de plus facilement partageable, qui va intéresser les médias, etc. Et voilà pourquoi on a fait une V2.
Donc c'est un morceau qui est sorti le 8 mars, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Pourquoi c'était important pour toi d'aborder cette question des inégalités de genre ?
Parce que j'ai le sentiment qu'en France, en dehors des milieux sensibilisés à la question, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à penser que le combat féministe a plus lieu d'être, en fait, tu vois, enfin, comme si, non, mais c'est bon, maintenant vous avez l'égalité, c'est bon, là, enfin, comme s'il n'y avait plus besoin d'en faire tout un plat, tu vois. Et justement, ce truc de bonne fête de la Journée internationale des droits des femmes, qui est souvent transformé dans la bouche des gens en bonne fête de la femme, témoigne de ce phénomène, tu vois. Les gens, ils ne se rendent pas compte qu'il y a besoin d'une journée internationale de lutte pour les droits des femmes, tu vois. Ils auront tendance à dire carrément, non, c'est bon, on peut faire la fête, quoi, tu vois. Et du coup, bah, dans ce morceau, non seulement je dis « Non, ne me souhaitez pas bonne fête », c'est pas la fête de la femme, là, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, mais en plus, j'explique pourquoi il y a besoin de cette journée. Tu vois, tout au long du morceau, en fait, je cite des faits qui se passent soit en France, je cite par exemple les écarts de salaire, dans le monde, je cite les mutilations génitales, par exemple, je cite toute une liste de faits pour rappeler aux gens, là, c'est des faits que je vous donne, vous voyez bien que le combat féministe, il a toute sa raison d'être, quoi.
Est-ce que, du coup, tu dirais... Bon, alors, le terme est galvaudé, mais est-ce que tu dirais que tu fais du rap engagé ?
Oui, oui. Bah, après, le truc, c'est que mon rap, il est assez éclectique. J'ai parfois des morceaux... des morceaux, comment on dit, ego trip, parfois des morceaux engagés, parfois des morceaux détente. Donc, je sais pas si je peux dire que je fais du rap engagé, mais je peux certainement dire que certains de mes morceaux sont engagés.
Et tu travailles aussi avec le rappeur JP Manova ? Comment vous êtes rencontrés et comment ça se passe, en fait, votre collaboration ?
Ouais, alors, c'était une rencontre vraiment chouette. En gros, j'ai participé à un battle dans lequel il était jury et j'ai gagné ce battle.
Okay.
J'étais super contente. En plus, c'était pendant mon année sabbatique. J'étais la seule meuf. Donc, forcément, ça m'a boosté mon envie et ma confiance. Et bah, du coup, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et à la suite de ce battle, il m'a dit, vas-y, on se tient au courant, on se capte. Et quelques mois plus tard, il voulait me donner des conseils sur le clip Kirikou que j'avais sorti. Il voulait me dire ce qu'il en avait pensé, ce que je pouvais faire pour m'améliorer. Sachant qu'avant lui, en fait, je n'avais jamais travaillé avec un pro rap en studio, un
D'accord.
professionnel du rap. Du coup, j'avais vraiment beaucoup à apprendre, en fait, sur la façon d'enregistrer. Autant sur scène, j'avais toujours eu une facilité un peu naturelle, autant en studio, enfin, j'avais tout à apprendre. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça pour qu'il me fasse ses retours sur Kirikou. Et pendant cette période où on se voyait vraiment de temps en temps en studio, la Coupe du Monde féminine approchait. Et du coup, j'ai eu l'idée de ce morceau-là, Sélection féminine, et je lui en ai parlé. Du coup, on s'est dit, bah, go, on le fait, quoi. Et voilà,
Okay.
c'est comme ça que ça. En fait, notre collaboration, elle a vraiment débuté sur Sélection féminine, morceau à la suite duquel on s'est engagé pour faire un projet complet ensemble. Et voilà.
Du coup, on va faire une deuxième pause musicale et écouter ton morceau Carrière qui est sorti en mars 2020.
L'horloge a sonné, l'heure d'être responsable. Le moule et les cases à cocher ne correspondent pas pour passer les paliers. Camarade, restons calmes. C'est en maîtrisant notre jeu que nous ferons carrière. L'horloge a sonné, l'heure d'être responsable. Le moule et les cases à cocher ne correspondent pas pour passer les paliers. Camarade, restons calmes. C'est en maîtrisant notre jeu que nous ferons carrière. Dans la cour de l'inconnu, imprégné des erreurs qu'on a commises. Tous les membres de la commune suivent les règles pour oublier qu'ils agonisent. Sur l'étiquette qu'on m'a collée, je suis censé rester sage. Je tape dans le ballon qu'on m'a donné, du coup les adultes m'appellent le garçonné. Intrigué par les personnes, depuis que j'ai quitté le berceau. J'ai des blèmes pro, j'en perds sommeil, mais sache que c'est personnel. Dans l'enfance j'étais fasciné face au système que l'effort avait façonné. J'ai facilement perdu foi en ces facettes, quand fashion efface, tant condamné mon faciès. Fables et rêves t'ont alimenté, likes et fakes vont t'anéantir. Je bénis ceux qui ont manigancé, allez vous fermer, allez-y en paix. Écris des rudits t'ont fait pioncer, paroles creuses vont t'ambiancer. Attention c'est maintenant que t'entres en scène, et le bruit que t'entends c'est l'horloge a sonné, l'heure d'être responsable. Le moule et les cases à cocher ne correspondent pas pour passer le palier. Camarade, restons calmes. C'est en maîtrisant notre jeu que nous ferons carrière. L'horloge a sonné, l'heure d'être responsable. Le moule et les cases à cocher ne correspondent pas pour passer les paliers. Camarade, restons calmes. C'est en maîtrisant notre jeu que nous ferons carrière. Nous ferons carrière. Nous ferons carrière. C'est en maîtrisant notre jeu que nous ferons carrière.
Comme je disais, ce morceau s'appelle Carrière. Est-ce que tu as une idée de ce qui serait la carrière rêvée ou idéale pour toi?
Oui. J'ai une idée très précise. Devenir une star. Non, mais c'est vrai, hein. Enfin, en gros. La carrière idéale, ce serait d'avoir le temps qu'il me faut pour progresser. Tu vois, par exemple, j'ai l'impression qu'à l'époque où Sélection féminine est sortie, j'étais pas encore à mon niveau max, entre guillemets, ou mon niveau minimum pour vraiment commencer à être connue du grand public. J'ai beaucoup progressé depuis Sélection féminine et je suis contente, tu vois. Donc, je pense que première étape d'une carrière, avoir la chance d'avoir le temps de progresser, de faire les bonnes rencontres pour travailler, etc. Ensuite, en fait, ouais, une première période en Indé pour progresser, une deuxième période très bien accompagnée et signée. Moi, perso, je crois moins en l'Indé que dans les signatures. Je pense que c'est rare les rappeurs en Indé qui arrivent vraiment à faire émerger leur art. Et moi, j'ai vraiment envie, en fait, d'être accompagnée par un très bon label qui a de l'expérience, qui saura faire sortir mes morceaux, mes clips, etc., comme il faut. Donc voilà, en fait, essayer d'être très bien entourée. Et puis voilà, enfin, en fait, moi, le truc, c'est que je me sens jamais autant épanouie que quand je partage ma musique avec des gens. Que ce soit une petite soirée où je fais un freestyle devant tout le monde, ou un beau concert comme la première partie de Kerry James que j'ai fait il y a quelques mois, où il y a toute une salle qui me découvre et qui est à fond avec moi dans ce que je fais. Bon, en fait, c'est vraiment quand j'ai l'occasion de faire écouter ma musique à plein de gens, d'être en concert, que je me sens épanouie et vivre, en fait. Et pour ça, enfin, si je veux que ça n'ait pas de limite, je suis obligée dans le système d'aujourd'hui de trouver des partenaires qui vont m'aider à diffuser la musique à grande échelle, quoi.
Tu disais que tu avais beaucoup évolué depuis Sélection Féminine. Est-ce que comment tu travailles ta technique, ton flow? Est-ce que, comme tu es sportive, est-ce que c'est comparable à des entraînements de sport? Est-ce que c'est la même discipline?
Ouais, quelque part, oui. Alors, en fait, moi, dans ma façon de travailler le rap, il n'y a pas non plus d'exercice technique comme il pourrait y avoir au foot, de conduite de balle, travail devant le but, etc. Par contre, il y a le côté pratique, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte, et c'est comme au foot, hein, c'est plus tu pratiques, plus tu progresses. Et du coup, je n'ai pas du tout de technique spéciale pour progresser, mais juste je me rends compte au fur et à mesure que je fais des textes que j'arrive à sortir des nouveaux trucs, des nouveaux placements, des nouveaux types de rimes, des nouvelles variantes, etc. Et ouais, donc beaucoup pratiquer et beaucoup écouter aussi, beaucoup écouter ce qui se fait. Et voilà, moi perso, c'est ma technique, hein, c'est vraiment juste la pratique.
Et qu'est-ce que tu écoutes qui t'inspire à créer des sons?
C'est une bonne question. Bah, en fait, ce qui est un peu bizarre, c'est que c'est surtout ce que j'écoutais quand j'étais ado qui m'a un peu vraiment donné la grosse dose d'inspiration pour me lancer dans cette voie. Donc, c'était des artistes comme Youssoupha, Section d'Assaut, Sniper, Nekfeu, Aurel San, enfin, toujours un peu années 2000-2010. Et aujourd'hui, je sais pas. En fait, j'écoute beaucoup ce qui se fait, mais un peu plus pour me tenir au courant. Mais ça m'inspire pas comme avant. Ou alors, je m'en rends pas compte. Sans doute, ça m'influence, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, j'aime bien écouter Ninho, Niska, Dahuzi, Shai. Enfin, voilà, en vrac, Damso. Meryl aussi, j'aime beaucoup des artistes comme ça. Mais je sais pas dans quelle mesure ça m'inspire. Peut-être, sans doute que ça influe sur mon travail sans que je m'en rende compte, tu vois.
Du coup, majoritairement français ou francophone?
Ouais, exactement. Alors que quand j'étais petite, j'écoutais énormément de rap américain et de R&B, etc. Mais aujourd'hui, ouais, j'écoute que du rap français.
Et des rappeuses aussi?
Oui, j'écoute quelques rappeuses, mais pas énormément. Comme je l'ai dit, j'écoute Shy, j'écoute Meryl. En fait, d'une façon générale, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de stars, entre guillemets, enfin, des gens qui ont vraiment percé, même chez les rappeurs masculins. Du coup, vu qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui ont percé, mine de rien, je n'écoute pas beaucoup de filles. Après, voilà, sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup de rappeuses émergentes, mais je ne serais pas capable, tu vois, de te dire que j'écoute, je sais pas, que j'écoute Tracy Desa, par exemple. Genre, c'est une personne que j'aime beaucoup, on échange et tout, mais je ne connais pas bien ses morceaux, sa discographie et tout. C'est plus que genre, je suis un peu tout ce qu'elles font. Non, dire que j'écoute des rappeuses, en fait, il n'y a que Shai et Meryl que j'écoute. Et puis parfois, je réécoute Kenny Arcana, Jams, des meufs comme ça, quoi.
Dans ce titre, La Carrière, tu parles aussi de l'étiquette qu'on t'a collée. Et en tant que rappeuse, est-ce qu'il y a une étiquette qu'on te colle souvent et qui t'agace énormément?
C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a une étiquette qu'on me colle?
À part Just Shiny.
Non, à part Just Shiny, non, franchement, pour l'instant, je trouve que j'ai la chance qu'on n'ait pas encore collé d'étiquette. J'espère que ça n'arrivera pas. J'ai l'impression que malheureusement, tu es obligé tôt ou tard de proposer une étiquette au public et aux médias surtout pour que ton projet puisse se vendre plus facilement. Pour l'instant, j'ai pas d'étiquette. Après, j'ai des caractéristiques que j'aime bien et que je suis fière de mettre en avant, comme le féminisme ou le côté sportif, tu vois. Mais non, heureusement, on m'a pas collé d'étiquette. Le truc qui a pu m'arriver, par contre, au début de mon expérience dans le rap, c'est plus que quand je me pointais quelque part, comme un battle, par exemple, ou une émission, une web radio pour freestyler et tout, Et ben, en me voyant arriver, souvent les gens ils pensaient que j'étais chanteuse, tu vois. Ou ils pensaient que j'accompagnais un rappeur, par exemple. Tu vois. C'est plutôt ça. Ou alors, au moment où je prends le micro pour passer pour mon freestyle, tu vas avoir l'animateur qui va dire un truc à la con, je sais pas, genre. Allez, super. Ce soir, on a des kickers, mais on a aussi des belles filles qui vont chanter. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. C'est plutôt ça. Mais c'est plus avant que les gens m'entendent rapper, qu'ils auront tendance à me coller une étiquette. À partir du moment où je rappe, bah, jusqu'à présent, j'ai pas eu la mauvaise surprise d'être enfermée dans une case.
Ce que tu dis, ça ressemble plus à du sexisme ordinaire que vraiment une étiquette
Ouais,
par
c'est
rapport
ça.
à toi, ouais.
Ouais, exact.
Écoute, c'est le moment de passer à la seconde partie de cet entretien, donc avec des sujets d'actualité dont tu avais envie de discuter aujourd'hui. Et le premier thème que tu as choisi, c'est la polémique sur les règlements sexistes dans les collèges et les lycées.
Ouais.
C'est une polémique qui avait vu le jour en septembre dernier parce qu'il y avait des lycéennes et des collégiennes qui ont lancé le hashtag lundi 14 septembre. Et en fait, elles étaient ouais, dans leurs établissements scolaires, il y avait des injonctions vestimentaires. On leur disait qu'il ne fallait pas s'habiller trop dénudé, trop sexy, etc. Du coup, en réaction, elles ont décidé de mettre des shorts, des jupes et pour protester contre ces règles. Et ça a un peu causé un tollé pas possible partout dans les médias, la classe politique, jusqu'à notre ministre de l'Éducation nationale qui a demandé aux filles de venir,
En
je
tenue
cite,
républicaine.
voilà, en tenue républicaine. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire, tout ce débat-là?
Bah, déjà, en fait, moi, j'ai été super touchée et super admirative, mais vraiment sincèrement, de cette démarche de la part des jeunes, en fait. Vraiment, ça m'a touchée de ouf. Je me suis dit, mais putain, elles en ont, quoi. Et elles savent ce qu'elles veulent et elles sont pas dupes. Elles savent qu'elles subissent une injustice. Moi, quand j'étais au collège et au lycée d'ailleurs, il y avait ce genre de règlement dans mon établissement, mais je sais pas, j'ai l'impression que on n'a pas tilté. Enfin, c'est juste on obéissait ou alors parfois on s'en moquait un peu, on disait ah ouais, dans le règlement on n'a pas le droit de faire ça, mais on faisait rien après, tu vois. En gros, nous par exemple, on n'avait pas le droit de montrer les épaules, on n'avait pas le droit aux débardeurs qui montrent les épaules.
Ah ouais.
Ça me fait rire de le dire, c'est incroyable. Et notamment si on portait un soutien-gorge, genre, on n'avait pas le droit de laisser apercevoir nos bretelles de soutien-gorge, tu vois, au collège.
Mais c'est fou, c'était un établissement privé?
Oui,
Ah voilà, oui.
oui, c'était un établissement privé catholique par-dessus le marché. Donc, oui, effectivement. C'est peut-être pas un hasard, mais finalement, même sans avoir besoin que l'établissement soit privé et ou catholique, dans les témoignages qu'on a entendus sur ce lundi 14 septembre, bah, il y avait aussi des règlements d'établissements publics où, bah, de toute façon, enfin, que ce soit les épaules ou le ventre ou les cuisses, enfin, tout est ridicule, quoi, comme dans ces règles-là.
Est-ce que c'était aussi appliqué aux garçons, les épaules apparentes?
Non, les épaules, non.
C'était que les
Par
filles.
contre, les garçons n'avaient pas le droit aux Bermudas, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est un peu bizarre. Enfin, ils avaient le droit aux shorts, tu vois, mais pas aux Bermudas, enfin, parce que ça faisait un peu plage ou un truc comme ça. Mais en tout cas, finalement, que ce soit garçon ou fille, je me rends compte que, mais plus particulièrement les filles, parce que forcément, dans ces règlements et dans la façon dont il était appliqué et dans les remarques qui étaient faites aux élèves, bien sûr que il y avait et on aurait dû relever et on aurait dû se rebeller contre un sexisme évident. Mais en fait, voilà, ce qui est fou, c'est que je me rends compte qu'on obéissait, tu vois. Et là, je me suis dit, waouh, putain, ça y est, elles ont osé, alors que c'est des enfants, tu vois. Et puis, elles ont aussi été souvent soutenues par des garçons. En fait, ça m'a donné un espoir de fou dans l'avenir et dans les générations qui arrivent. Et c'est ouf parce que c'est à une génération près. Moi, j'étais au lycée il n'y a pas si longtemps, mine de rien, tu vois. Enfin, en vrai, c'est il y a quand même 10 ans, quand même. Et donc, j'étais au collège il y a 15 ans. Mais, je sais pas, je me dis, ah, ça y est, quoi. Bon, c'est peut-être une petite lueur, tu vois. Je sais pas si dans tous les établissements, tous les élèves et toutes les élèves ont eu ce déclic-là et ce courage-là et cette prise de conscience, mais voilà, juste à la base, ça m'a fait me dire, il y a un truc qui se passe, il y a une lueur d'espoir, tu vois.
Comment ça se fait d'après toi qu'il y ait ces évolutions aussi rapides? Parce que en effet, tu dis 10 ans, ça va quand même très vite. Qu'est-ce qui a bougé? C'est les réseaux sociaux? C'est le fait que le féminisme, enfin, ces questions-là soient
Ouais.
de plus en plus démocratisées? C'est quoi
Ouais,
d'après toi?
ouais. Ouais, je pense que c'est ça, c'est l'espace médiatique au sens large que le féminisme, enfin, dont le féminisme a pu bénéficier ces dernières années. Moi, tu vois, je sais pas si c'était à cause de mon âge ou parce que il y avait moins accès à ces informations-là, mais quand j'étais au collège et au lycée, je pense que je me sentais vaguement féministe, mais j'ai pas eu l'occasion de m'en rendre compte avant à peu près la fac, enfin, avant à peu près il y a 4-5 ans, où j'ai commencé vraiment à consommer du contenu féministe, en fait, des écrits, des interviews, des podcasts dans lesquels je me reconnaissais. Et en fait, je pense qu'ils existaient avant, tous ces contenus, mais peut-être qu'ils étaient, ouais, moins largement diffusés, moins facilement mis en lumière. Donc, voilà, je me dis, bah oui, peut-être que d'une part, les contenus féministes, heureusement, ont de plus en plus leur place, en tout cas, sont de moins en moins étouffés dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aussi, justement, je pense, ont beaucoup joué parce que c'est une façon très facile et très pratique de consommer des contenus. Il y a plein de comptes sur Instagram, par exemple, de sensibilisation, d'information, d'éducation sur les thématiques féministes et sur plein de thématiques. Donc, du coup, le contenu est super accessible. Et puis, je ne sais pas, on a parlé, par exemple, il n'y a pas longtemps de la période MeToo, où on disait que la parole des femmes se libérait. C'était une expression assez controversée parce qu'en fait, c'est un hashtag qui existait depuis des dizaines d'années aux États-Unis. Enfin, mais c'est vrai que on ne sait pas pourquoi. Enfin, bon, il y a plusieurs théories sur les mécanismes qui ont fait que cette fois, ça a pris autant d'ampleur. Mais en tout cas, ça a pris plus d'ampleur qu'avant, j'ai l'impression. Donc voilà, peut-être que bah, finalement, toute cette libération enfin, tant attendue de la parole féministe a fait que. Bah ouais, que finalement, de plus en plus jeune, on ait accès à ce genre d'informations, qu'on puisse prendre conscience aussi peut-être de ce qu'on ressent et que c'est légitime. Parce que tu vois, moi, peut-être qu'à l'époque du collège-lycée, finalement, je ressentais quelque part au fond de moi une injustice et du sexisme, mais je n'entendais tellement pas parler des problématiques sexistes et féministes que, je sais pas, peut-être je savais même pas que j'avais le droit de dire que c'était pas bien, tu vois, ou
Oui.
que j'étais pas la seule à penser ça.
Après, tu parlais aussi des comptes, par exemple Instagram, qui propose du contenu féministe. Je pense que c'est peut-être aussi plus accessible qu'avant, en effet, pour n'importe qui, pour des ados qui sont sur les réseaux sociaux.
Ouais, de ouf.
Toi, tu es assez active aussi sur Instagram. C'est même le réseau sur lequel tu es la plus active, si
Ouais,
je ne me trompe pas.
tout à fait.
Justement, là, tu as lancé un projet qui s'appelle Tag un Beatmaker et tu sors un freestyle différent tous les dimanches. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ce projet, en quoi ça consiste?
Yes, bah en fait, l'année 2020 a été assez difficile et du coup, j'avais vraiment envie d'ouvrir 2021 avec une lueur d'espoir, un boost de morale, voilà, un peu fédérer tout le monde et motiver tout le monde à se remettre à fond dans la musique, à participer, voilà. Et en gros, le but premier de ce concept, c'est vraiment le côté participatif. Tag un beatmaker, c'est un projet où tous les dimanches, je propose à ma communauté et à toutes les autres communautés des comptes Instagram de proposer un beatmaker qui participera à mon prochain freestyle en commentaire. Et quelques jours après, moi, je présélectionne les instrus que j'ai reçus et ma communauté doit voter pour l'instru qui figurera sur mon prochain freestyle. Et en fait, tu vois, le but, c'était voilà, que les gens y taguent, que les gens y votent et tout. Et je suis trop contente parce que ça a vraiment mobilisé plein de participation et tout. Et en fait, je sais pas, voilà, ça me fait vraiment du bien, cet engouement. J'ai l'impression que les gens, ils sont... En fait, je suis contente parce que j'ai l'impression d'apporter un divertissement aux gens, tu vois. D'apporter un truc, une activité. Et les gens, ils sont contents d'y participer et tout. Donc voilà, c'était un peu pour ouvrir 2021 sur une ambiance de motivation mutuelle, quoi.
Et ça va durer jusqu'à quand normalement?
Normalement, jusqu'à fin janvier. J'avais prévu de le faire que pendant un mois. Mais en vrai, il y a moyen que je le recommence. Après, le truc, c'est que c'est super prenant. Parce que du coup, en gros, moi, j'ai... À partir du moment où je fais le premier post, j'ai 2 jours pour écouter une centaine d'instrus à peu près qu'on m'envoie et les
Ah oui.
sélectionner. Après, je fais ma petite présélection, les gens y votent et à partir du moment où j'ai le décompte final des voix, j'ai pareil 2 jours. En gros, j'ai de mercredi soir à vendredi soir parce que je dois enregistrer vendredi soir pour écrire mon texte, tu vois. Du coup, c'est super intense, d'autant plus que je travaille genre de 9h à 19h, quoi.
Ouais.
Et du coup, je pense que là, je vais faire un mois et après peut-être souffler un peu, quitte à recommencer plus tard, tu vois. Mais bon, après, il y a d'autres concepts qui vont arriver. après le tag un beatmaker, il y aura un autre concept en février, participatif aussi. Mais voilà, je vais varier un peu et puis peut-être que tag un beatmaker reviendra plus tard dans l'année.
En parlant de freestyle, on va écouter un dernier extrait à toi qui s'appelle Rendez-vous et donc il y a un freestyle qui est sorti l'été dernier.
J'ai rendez-vous avec ma vie, je ne la connais pas. On se voit la nuit, je fais mes premiers pas. Maquiller mon visage pour la caméra. Chacun son remède, je ne me remets pas. On a tout confié à des chiffres et des lettres. On bug sur des gifs et des likes. C'est notre idéal qu'on s'efforce de nourrir à la force de nos rêves. Prends garde à ceux qui te disent par devant avant de te la mettre par derrière. Ils ont fait de nous une bombe à retardement qu'ils ne peuvent plus désamorcer. C'est sale, j'ai la répugnance de mon visage ancrée dans ma tête. Quelques tragédies pour inspirer mes freestyles notées dans mon tel. Soyez les bienvenus pour le récital. Le temps a passé mais je suis navré pour tous ceux qui découvrent que le monde est raciste. J'ai rendez-vous avec ma vie, je ne la connais pas. On se voit la nuit, je fais mes premiers pas. Maquiller mon visage pour la caméra. Chacun son remède, moi je ne me remets pas. J'ai rendez-vous avec ma vie, je ne la connais pas. On se voit la nuit, je fais mes premiers pas. Maquiller mon visage pour la caméra. Chacun son remède, moi je ne me remets pas.
Alors dans ce titre, il y a une phrase qui m'a interpellée où tu dis maquiller mon visage pour la caméra. Je me suis demandé si tu trouvais que ton personnage public, le personnage que tu avais construit, était éloigné de qui tu étais véritablement.
Non, je trouve pas ça. Mais c'est sûr qu'il n'est pas éloigné, mais c'est sûr qu'il est incomplet par rapport à qui je suis. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé mon année sabbatique et à me lancer dans le rap, j'étais vraiment 100% moi, tu vois. Moi, j'ai un petit côté un peu enfantin, parfois, dans ma façon d'être. Et au début, notamment, je m'habillais beaucoup en salopette. Tu vois, je me suis dit, allez, vas-y, je vais jouer ce côté enfantin à fond, un peu Fifi Brin d'Acier. Je m'habillais tout le temps en salopette. Et après, quand j'ai commencé à être entourée par une équipe qui a eu des concerts, des interviews et tout, bah, on m'a un peu encouragée à être un peu plus féminine, hein, mine de rien, plutôt qu'enfant, un peu plus adulte. Et voilà, en fait, après, c'est un côté qui me reflète aussi et qui me plaît. Mais c'est vrai que c'est pas que ça. Je suis pas que ça, que maquillée, que belle, quoi, tu vois. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai pas encore trouvé la façon d'exprimer autre chose que ce côté féminin et femme qu'on m'a encouragé à montrer, tu vois. Dans les clips, après sélection féminine, heureusement, sélection féminine, j'étais plutôt en mode sportive et tout. Mais après, dans mes autres clips, dans mes freestyles, voilà, je suis plutôt un peu maquillée, un peu sexy et tout. Donc, voilà.
Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que je trouve que ça... Enfin, moi, en tout cas, c'est une évolution que j'ai pu un peu voir, notamment par rapport à Kirikou et ce que tu dis sur sélection féminine, où pour moi, il y avait quelque chose de plus neutre, en tout cas. Peut-être pas... moi, je n'ai pas vu le côté enfantin ou salopette.
Okay, okay.
Tu dis, peut-être plus un truc même plus streetwear, en fait, ou neutre, ouais. Quelque chose de plus neutre. Et... où justement, de l'extérieur, je me demandais si c'était des consignes, entre guillemets, de l'entourage ou si c'était juste une évolution naturelle, artistique, en fait.
C'est une bonne question. Je pense que ça a quand même été encouragé par mon entourage. Après, le truc, c'est que moi, d'une façon générale, je me retrouve vraiment dans des activités très différentes, dans des styles très différents, dans des goûts très différents. Tu vois, enfin, comme je te disais, quand j'étais petite... À la fois, je voulais devenir dessinatrice, à la fois écrivain, à la fois danseuse. Et pareil, finalement, dans mon style, j'aime beaucoup être habillée streetwear ou garçon manqué. J'aime beaucoup être sexy, j'aime beaucoup être sportive. Donc finalement, dans chacun de ces styles, je me retrouve un peu. Là, le truc, c'est plutôt qu'est-ce que j'ai envie de montrer, quelle image publique, comme tu dis, j'ai envie de définitivement envoyer. Et finalement, c'est un chantier qui est encore en construction, sur lequel je ne suis pas encore sûre de moi. Et vu que justement, je suis à l'aise dans plein de styles différents, en fait, ouais, en gros, le truc, c'est que, a priori, dans l'industrie musicale actuelle, il vaut mieux envoyer un message clair, tu vois, un message un peu unique. pour que ça marche, tu vois. Sinon, si ça ne tenait qu'à moi, bah, j'apparaîtrais un coup comme ci, un coup comme ça, parce que finalement, ma personnalité, bah, elle est comme ça, elle est très, très hétérogène, tu vois. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai un peu cette contrainte business de devoir favoriser une image. Et pour l'instant, je ne suis pas encore sûre de laquelle je dois mettre en œuvre.
Après, est-ce que c'est pas aussi entre guillemets un travers très français de vouloir avoir une image comme ça monolithique ou une activité principale, ce que tu disais, c'est difficile. On a une perception en France assez compliquée des artistes pluridisciplinaires. On va dire, ah bah, si elle est comédienne et qu'elle chante, c'est qu'elle chante mal ou qu'elle joue mal la comédie,
ouais, c'est
choisir.
Vrai.
Et j'ai l'impression que ce que tu dis aussi sur le look ou l'image globale, c'est similaire en fait, où il faut que tu choisisses quelque chose alors qu'en fait, on est tous complexes et qu'on a plein
oui,
de facettes.
Ça. C'est ça, c'est ouf. Mais en fait, je suis un peu confrontée au dilemme de est-ce que je me dis, vas-y, je m'en fous, je vis ma vie et tout, je fais ce que je veux. Ou est-ce que, si tu as pour objectif de percer dans cette industrie, tu dois te plier à certaines règles, tu vois. Moi, je me suis toujours dit que j'allais jouer le jeu pour réussir et qu'une fois que j'aurais réussi, là, j'enverrai un message qui fait bouger les lignes, tu vois. J'espère vraiment, c'est vraiment une ambition et j'aimerais bien pouvoir faire ça. Et quand j'étais petite, je voulais aussi faire de la politique quand j'étais petite. Et je me disais, parce que j'avais envie de changer le monde, tu vois. Et je me disais, justement, je vais faire les études qu'il faut, je vais m'infiltrer dans le système et tout. Je vais jouer le jeu. Et quand je serai présidente, là, je vais tout changer et tout, tu vois. Même si j'ai plus cette ambition politique, là, c'est un peu ça. Je me dis, peut-être qu'il faut que je joue le jeu pendant un bon moment. Et puis, quand j'aurai peut-être la légitimité et l'influence de le faire, je pourrai envoyer des signaux pour vraiment aider à bouger les lignes, à changer les choses, tu vois.
Est-ce que tu as l'impression que cette injonction donc à choisir une image en particulier, c'est quelque chose qui est plus imposé aux femmes qu'aux hommes?
Ouais, peut-être. Enfin, dans la musique, je ne sais pas si... Enfin, alors, choisir une image en particulier, pas forcément. Par contre... Finalement, l'injonction à un peu à soigner son image ou à, si en fait tu as raison, à préciser son image, ouais, j'ai l'impression que c'est plus dur quand t'es une fille, qu'on va plus systématiquement te le demander. En fait, finalement, quand je regarde les rappeurs qui ont percé, les rappeurs mecs, j'ai l'impression qu'ils s'habillent comme ça tous les jours, tu sais. Enfin, autant je me dis que dans leur musique, on voit qu'ils ont dû sûrement trancher sur un style. T'en as qui... Enfin, voilà, Jules, ses instruits, elles sont reconnaissables à 10 000 km. T'en as, on sait qu'ils vont plutôt être dans un registre agressif, d'autres plutôt chanter, etc. Donc, autant ça, ouais. Autant sur leur style, j'avoue que c'est super naturel, quoi. Alors que, franchement, moi, quand je me prépare pour des clips ou quoi... J'ai pas envie de rester habillée comme ça et maquillée comme ça. Après, j'ai envie d'être confortable, tu vois. J'ai envie de remettre mon jogging. Alors que justement, les garçons, on dirait que, en vrai, s'ils ont fini leur clip, ils pourraient continuer leur journée habillée comme ça, tu vois. Donc, j'ai la flemme.
Et justement, le deuxième thème que tu as choisi d'aborder aujourd'hui, c'est un article que Madame Rap a fait sur les réactions sexistes et lesbophobes après le clip Bande organisée version féminine. Mmh. Donc, en fait, c'est un groupe de 8 rappeuses marseillaises qui ont repris, qui ont fait une cover du Bande organisée de Jul. Et puis, un second clip fin décembre qui s'appelle On fout la merde. Et en fait, à chaque fois qu'elle poste une vidéo, ça déclenche un torrent de commentaires sexistes, racistes, lesbophobes. Enfin, c'est assez affreux. Et du coup, Madame Rap a relayé leur clip On fout la merde début janvier. Et ça a attiré plein de trolls sur la page Facebook. Et du coup, on a publié un article le 11 janvier pour un peu raconter tout ça, quoi. Et donc, pourquoi toi, tu avais envie de parler de ça aujourd'hui?
Pour plusieurs raisons, tu vois. Déjà, là où tout à l'heure, je disais que le mouvement du lundi 14 septembre chez les lycéennes et les collégiennes m'avait donné beaucoup d'espoir. Là, quand j'ai vu ton article, coup dur, quoi. Je me dis, mais on n'est pas sortis de l'auberge. Enfin, comment on va faire? Il y a trop de gens qui sont à côté de la plaque, quoi. Et comment on fait pour leur parler à ces gens? Comment on fait pour échanger avec eux? Parfois, je me dis que finalement, les thématiques féministes ou toutes les autres thématiques sur toutes les discriminations possibles, elles sont énormément abordées entre des personnes qui sont déjà sensibilisées, tu vois. y a un peu une sorte d'entre-soi. Et parfois, je me dis, mais en fait, tous les progrès que je vois, c'est qu'un mini bout de l'iceberg. Et peut-être, en fait, la majorité des gens s'en foutent de tous ces sujets-là, tu vois. Donc, bon, déjà, ça m'a vraiment fait... Ça m'a fait de la peine, ça m'a un peu angoissée et tout. Et puis aussi, ça fait un peu peur pour soi-même, tu vois. Genre, moi, je me dis... en fait, mine de rien, pareil, quand j'ai sorti Sélection Féminine, bon, il a été largement très bien accueilli. Franchement, j'ai eu cette chance-là. Mais, ouais, t'avais aussi quelques commentaires vraiment débiles, mais juste parce que j'étais une fille, tu vois. Des commentaires pas du tout constructifs, de la misogynie bête, tu vois, comme, enfin, des trucs pour citer les commentaires que t'as mis en avant, des trucs de... elle devrait plutôt être à la cuisine, des trucs comme ça. Et... en fait, ouais, en gros, juste, ça me fait me dire que quand t'es une fille dans le rap, tu dois respirer un bon coup avant de publier un truc, quoi. T'es pas à l'abri de commentaires super agressifs, super injustes. Ça enfonce encore plus le côté inégalité des chances un peu dans la musique, tu vois, dans le rap pour les filles. Parce qu'en en plus, quand t'es une fille, déjà, tu te chauffes, tu te motives pour faire un son et tout. Et quand tu le publies, ça se trouve, tu vas te prendre des agressions gratuites et qui peuvent te miner le moral, la motivation et tout, quoi. Non, donc en vrai, que du désespoir en lisant cet article. Voilà.
Et je ne sais pas si tu avais suivi aussi, je ne sais pas si tu connais cette rappeuse qui s'appelle Hero Echo.
Non.
Qui a sorti un clip aussi qui s'appelle Amazon il y a quelques
ouais,
semaines et qui a été victime d'une campagne de harcèlement sur internet par des néo-nazis en fait et ça a été vraiment cauchemardesque. Elle a dû reposter sa vidéo avec un texte qui l'accompagne pour expliquer ce dont elle avait été victime, parce qu'en fait le clip s'appelait Amazon au pluriel, ouais. Et c'est clairement un clip féministe, voilà, qui célèbre l'émancipation des femmes, etc. Et c'est vrai que c'est assez inquiétant. En fait, moi, ce que je trouve inquiétant, c'est pour ça aussi que voilà, Madame Rapp a fait un article. C'est en fait l'impunité, parce que en fait, c'est ce que je rappelle dans l'article, c'est qu'en fait tout ça, c'est quand même passible de peine, d'amende ou de. Enfin, c'est il y a des lois qui encadrent.
Ouais, c'est clair. Et le fait que les gens se sentent libres et trouvent la place de faire tout ça, c'est oui, c'est comme s'il y avait pas, comme si c'était pas puni, comme tu dis.
Et toi, t'as jamais reçu des menaces comme ça ou des injures vraiment à un niveau légalement répréhensible, non ?
Non, non, heureusement non. Enfin, si, sans doute légalement répréhensible. Franchement, sans doute quelques commentaires misogynes et ou racistes. Donc oui, effectivement, c'est répréhensible. Mais heureusement, je me suis jamais sentie ultra agressée, ultra blessée. Enfin, j'ai toujours su m'en remettre, tu vois. Heureusement, je n'ai jamais été harcelée à grande échelle, poursuivie et tout. Mais du coup, ça fait peur, tu vois. Genre, je me dis, le prochain son féministe que je vais sortir, au moment où tu cliques sur publier, t'as un peu peur, quoi. Alors que c'est des sujets légitimes, tu vois. C'est pas comme, je sais pas quel autre rappeur qui avait sorti un truc un peu chelou, genre mort aux blancs ou un truc comme ça.
Ouais, c'était Pendez les blancs de Nick Conrad.
Ah ouais, c'est ça. Mais je sais pas, quand tu fais un son comme ça, tu le publies, tu sais que, vas-y, tu dis des trucs provocateurs et potentiellement graves, tu le sais. Quand tu fais un son féministe, tu dis des trucs pour améliorer le monde, en fait. Donc, tu n'es pas censé t'attendre à te faire insulter et poursuivre et harceler, quoi.
Et enfin, le dernier thème dont tu voulais parler, c'est, j'ai envie de dire, évidemment, l'impact de l'année 2020 sur le monde de la musique et sur tes projets.
Ouais.
Du coup, où en es-tu ?
Du coup, en 2020, enfin, en fait, de fin 2019 à courant 2020, je préparais un projet, un album. Et forcément, avec le confinement et tout, ça a vraiment compliqué les choses pour préparer sa sortie dans de bonnes conditions. Du coup, j'ai eu un peu le sentiment d'avoir perdu un an, tu vois. Donc, j'espère que je réussirai à le sortir cette année. J'ai le sentiment que pour les artistes vraiment déjà très installés, surtout les rappeuses et les rappeurs très installés, ça n'a pas dû être trop pénalisant. Parce que, je ne sais pas, quand t'es un Nino ou un Damso, a priori, voilà, tu peux continuer ta vie, faire tes projets et tout. Par contre, je pense que pour les artistes émergents, ça a dû être très difficile. Tu vois, les artistes qui sont un peu dans un entre-deux comme moi où tu as l'ambition de passer à la vitesse supérieure, pour assurer cette ambition-là, tu as besoin que tout roule, quoi. Du coup, moi, voilà, j'ai eu le sentiment que c'était un peu une année perdue sur le plan sortie de projet. Après, d'un autre côté, ce qui est cool, c'est que finalement, ça m'a aussi donné beaucoup de temps pour pratiquer. Donc, comme je te disais tout à l'heure, finalement, pratiquer, moi, ça me permet de progresser. Et c'est vrai que je me dis, tant mieux, parce que finalement, peut-être qu'en 2021, j'arriverai à envoyer des choses de meilleure qualité encore que ce que j'aurais pu envoyer en 2020 s'il n'y avait pas eu ce confinement et tout. Et voilà, après, un autre truc aussi qui m'a manqué en 2020 et qui, moi, me booste vraiment ma motivation et me donne de l'envie et donne un sens à ce que je fais, c'est les concerts, tu vois, le contact avec le public. Moi, c'est vraiment ma partie préférée dans la musique. Je me sens jamais autant vivante, je me sens jamais autant vibrée que quand je suis sur scène. Et ça m'a vraiment beaucoup manqué aussi en 2020. Ça enlève une certaine énergie. T'as un peu l'impression parfois de faire les trucs dans le vide. Même si, heureusement, le soutien du public sur les réseaux et tout, ça continue de motiver et c'est super important. La réalité, quand même, le vrai contact avec le public, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus stimulant. Et du coup, c'est aussi pour ça, tu vois, que je disais tout à l'heure que j'essaye de démarrer 2021 en essayant de retrouver cette relation avec les gens, avec le public. Les freestyles participatifs, ils ont été faits dans ce but-là aussi, pour un peu compenser ce que j'ai perdu comme relationnel en 2020. Et pour l'instant, ça me fait vraiment beaucoup de bien de voir que les gens participent autant, d'échanger, que les gens ils me donnent leur avis sur les musiques, sur pourquoi ils pensent que j'aurais dû prendre celle-ci ou celle-là. Et voilà, du coup, je ne sais pas trop ce que ça va donner cette année, mais j'essaye de la démarrer, en tout cas, de façon plus positive, plus active que l'année 2020. Et voilà, j'espère que ça va continuer dans cette dynamique-là.
Et malgré le contexte sanitaire, est-ce que tu arrives à avoir un peu de visibilité ou à caler, avoir un calendrier un peu sur l'année?
Pour l'instant, j'ai préparé un calendrier, effectivement. En fait, c'est une année qu'on a vraiment pensé très digitale, si tu veux. Enfin, voilà, j'ai un calendrier de... Voilà, il y aura tel et tel freestyle, tel et tel son, machin. Bon, ça supposera quand même d'être en mesure d'aller en studio, si les règles le permettent. On a prévu aussi des envois médias, la presse et tout. Ça, normalement, ça se fait en ligne, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais c'est vrai que à mon niveau, ce qui manque quand même, c'est le côté visibilité sur les concerts, les festivals, etc. Tu vois. Ça, c'est des choses qui peuvent m'apporter aussi beaucoup de visibilité et dont je risque d'être privée, parce que pour l'instant, j'ai pas de news de ça, quoi. Des festivals, des concerts. Est-ce que ça va reprendre quand?
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour 2021?
D'être très bien entourée. Ça se joue en équipe, hein, dans cette industrie-là. En vrai, ça se joue en équipe. Si tu as un bon coup de visibilité et tout, mais que tu n'as pas les bonnes personnes avec toi ou que tu es mal conseillée, ça peut être du gâchis, tu vois. Alors que si tu as des petites choses qui sortent, mais qu'avec toi, tu as des personnes qui sont capables de te booster et de t'orienter sur comment faire grandir les choses, t'as tout gagné, quoi.
Est-ce que si c'est possible, vivre du rap à terme est un objectif?
Oui, ouais, complètement. Parce que c'est vraiment ma passion, c'est ce qui m'épanouit le plus. Donc à terme, est-ce que ce sera dans 2 ans, est-ce que ce sera dans 5 ans, est-ce que ce sera dans 10 ans? J'aimerais pouvoir faire ça, parce que de toute façon, enfin, vivre du rap, ça veut dire aussi avoir plus de temps pour le rap, pouvoir développer encore plus le truc. Donc ouais, c'est sûr. Pour l'instant, j'arrive pas encore à me projeter dedans. Je suis encore trop loin de ce stade-là. Mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on peut me souhaiter. Peut-être pas pour 2021, mais pour le plus tôt possible.
Très bien, une réponse très nuancée, donc. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps et on
Avec
te souhaite
plaisir,
plein
comme
de
d'hab.
belles choses pour 2021.
Merci Héloïse.
À très
Beaucoup.
vite.
À très vite, salut.